Bonjour à tous. Bien, je suis content d'être là et de partager mon cœur, de partager ce que Dieu me fait vivre. Je vais rester sur le thème approprié à l'été, qui est le repos. Je ne sais pas ce que ce mot évoque pour vous. Et je me disais, c'est une très bonne question, ça, pour commencer l'été, de se poser la question, mais finalement, qu'est-ce que c'est le repos? Parce qu'on parle de repos, on a une image sur le repos, mais est-ce qu'on s'est arrêté pour réfléchir? Qu'est-ce que c'est le repos? Qu'est-ce que c'est se reposer? Et je trouve que ça vaut le coup de le faire avant l'été, ou au début de l'été. Alors, si je vous demandais d'imaginer le repos idéal pour vous, qu'est-ce qui vient dans votre esprit? Alors, j'ai pas préparé des images, mais je pourrais mettre une piscine, un hôtel, un avion, une plage, toutes sortes de choses, ou peut-être un livre, un arbre. Moi, je mettrais des montagnes, très haut. Très perché. Le repos idéal. Alors je vous propose une petite réflexion sur le repos ce matin. Et ce que je voudrais dire, c'est que toutes ces images que j'ai évoquées, l'hôtel, l'avion, la plage, etc., peuvent être de très grande qualité. On a aujourd'hui une offre, il suffit de voir sur internet pour rêver. On a quand même des choses de très grande qualité qui sont proposées, mais ce que je me disais, c'est que ces choses-là ne reposent pas notre être entier. Ça peut reposer notre corps, ça peut reposer notre intellect, ça peut reposer nos émotions, ça peut reposer une partie de notre âme, mais jamais notre être entier. Notre être entier, corps, âme, esprit. Je pense et j'affirme qu'en fait, le vrai repos, le repos profond, celui dont nous avons besoin, ne se trouve que avec Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire que la plage, tout ça, ça ne marche pas. Bien sûr, ça marche, c'est bon. Mais sans Dieu, il manque une part de repos. Et je crois que le repos est profondément associé à la personne de Dieu. Notre repos se trouve lié, se trouve en Dieu. En plus de la montagne, de la plage, etc. Alors, en allant un peu plus loin dans ma réflexion, je me disais cette réflexion, le monde propose du repos, mais ce repos-là, c'est une pause à nos soucis. Ça n'enlève pas nos soucis, ça n'enlève pas ce qui nous travaille, ça n'enlève pas ce qui peut peser et nous fatiguer. Ça offre juste une pause, une interruption. Alors la preuve, c'est que souvent, on n'a pas envie de rentrer de vacances. On a envie que ça dure. Pourquoi ? Ben parce qu'on sait que quand on rentre, on retrouve les mêmes choses fatigantes. La fatigue de notre âme et plus subtilement la fatigue de notre esprit a beaucoup plus d'impact sur notre fatigue, sur notre repos, que la fatigue de notre corps. Notre âme et notre esprit a beaucoup plus d'impact que la fatigue de notre corps. En sondant un peu la Bible, je suis tombé sur cette conclusion que le repos de Dieu, il est unique dans le sens qu'il contient le mot secours. Il contient la notion de délivrance, de salut. Le repos de Dieu offre en fait un transfert de nos problèmes, de ce qui pèse en nous. C'est pourquoi Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il continue « Mon joug, mon fardeau est doux et léger. » Et quand il dit ça, il dit « Mon fardeau, mon joug. » Il ne dit pas « Ton joug va devenir merveilleux, doux, etc. Tu vas voir, viens. » Non, « Mon joug. » Ça veut dire qu'il y a eu un transfert, il y a eu un échange. Dieu a pris mes fardeaux, ce qui me pèse, et il m'a donné le sien. En Dieu, il y a un secours, il y a une délivrance, il y a un vrai poids qui est ôté de nos vies, et c'est ça qui nous donne un vrai repos. Alors pour aller plus loin dans ces pensées, je voulais vous conduire dans un support, une méditation avec le psaume 46. Je trouve excellent les psaumes à méditer, parce que les psaumes parlent de la vie, et ils sont intemporels, ils sont valables quelles que soient les générations. Et méditer un psaume pendant l'été, je pense que c'est un bon moyen. Et je vous invite à le faire. Vous savez, on peut lire un psaume et puis passer au suivant, etc. Mais c'est profondément enrichissant de méditer un psaume sur, par exemple, une semaine, tous les jours. Et en fait, on découvre chaque jour des nouvelles profondeurs, des nouvelles choses. Les mots viennent nous parler. Et je vous invite à passer du temps avec un même passage de l'Écriture et à demander au Saint-Esprit de vous parler, simplement, et de chercher la profondeur. C'est le psaume 46, si tu peux le projeter. Merci. Et je vais lire ces extraits. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge. Un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Alors c'est un psaume célèbre, et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous savez que cette année, on va fêter les 500 ans de Luther. Et c'est très intéressant de parler de Luther. Et Luther est donc le réformateur qui a amené la réforme protestante. Une des choses nouvelles qu'il a amenées, c'est le chant. Il a libéré le cœur, il a été un peu un précurseur de la louange, comme on la vit nous. Et il a fait un chant très célèbre à partir du psaume 46. La petite parenthèse sur Luther. Ce qui m'a frappé dans ce psaume, c'est le contraste. Il y a un contraste très fort. Quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent et basculent, quand les flots des mers grondent, bouillonnent, ébranlent les montagnes, il y a toute une sorte de tumulte dans le monde. Il y a quelque chose qui est incertain, insécure. Il y a quelque chose qui est très puissant à l'œuvre et qui est déstabilisant. Et puis, il y a une pause. Dans le texte, c'est marqué « pause ». Et là, le psalmiste dit « il y a un fleuve ». Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Tout autour de nos vies, il y a de l'agitation, il y a un tumulte, il y a des choses qui bouillonnent, et il suffit de voir à son travail, il suffit de voir nos vies, il suffit de voir peut-être dans nos familles, nos voisins, nos amis, et puis il suffit tout simplement d'écouter les informations, et on est impressionné par ce bouillonnement, ce tumulte, ces flots de mer. Le G20 à Hambourg, par exemple, toutes ces histoires autour du terrorisme, les scandales politiques, etc., etc. Et on voit que nous sommes environnés de ce que le psalmiste met en image avec ces montagnes et ces flots de la mer qui sont agités. Et tout ceci contribue à fatiguer nos vies, à fatiguer nos âmes, à peser en nous. Pendant l'école clé, je fais une petite pub en tant que directeur, je me permets. Ce que j'aime à l'école, c'est qu'il y a des petites phrases qui parlent et qui restent. Et Steph disait dans un des cours, ce qui se passe en toi est plus important que ce qui se passe autour de toi. Ce qui se passe en toi est plus important que ce qui se passe autour de toi. En fait, notre repos ne dépend pas forcément de ce qui se passe autour de nous, mais plutôt de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on a le choix. Soit les circonstances autour de nous dominent à l'intérieur de nous, soit c'est l'inverse. Notre vie intérieure est capable de résister et de dominer sur nos circonstances. Et là, il y a vraiment un choix. Tout dépend de ce que j'ai à l'intérieur. Tout dépend de ce que je laisse entrer à l'intérieur. Sur mon téléphone, quand moi je me réveille le matin, je suis un peu un zombie, et première chose que je fais, c'est que je vais à la cafetière et je me fais le café. J'ai juste assez de neurones pour faire ça. Et puis une fois que je suis réveillé un petit peu plus, mais pas du tout, pas complètement encore, je prends mon téléphone et j'ai deux applications. J'ai Le Monde et j'ai la Bible, ou alors petite méditation de Spurgeon, un chrétien. Et j'ai le choix. Et si j'appuie sur Le Monde, ben boum, il y a le flot des infos du monde qui viennent, et puis ben, on sait tous ce que c'est. Et ça teinte, ça amène tout de suite une atmosphère. Et quand j'appuie sur l'application Bible, eh ben, il y a une autre atmosphère qui vient et qui me remplit. On a le choix. Alors dans ce psaume, je voulais juste souligner deux aspects. Le premier, c'est que Dieu est un rempart. C'est que Dieu se présente à nous comme un rempart. Il est ce rempart et ce refuge, ce secours lorsque survient la détresse, pour moi, mais aussi peut-être pour autour de moi, autour de nous. Et Dieu est ce rempart parce qu'il met une séparation entre mon être intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est une première phase de repos, dans un sens. C'est que Dieu est capable de nous donner une distance avec ce qui pèse en nous, ce qui veut peser en nous, les soucis. Et je dirais, c'est un privilège des saints, parce que le mot « saint », S-A-I-N-T, signifie « mis à part ». Mis à part, c'est-à-dire retiré, consacré. C'est le privilège des saints. Nous qui sommes dans le monde, mais pas du monde. Dieu veut être un rempart entre nous et les choses de ce monde qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas nourrissantes. Si on est honnête, la pensée du monde, la pensée qui nous entoure, alors je mets là-dedans ben, les informations, je mets là-dedans la pensée, nos pensées, pensées des personnes, peut-être pensées des livres, de tout ce qu'on peut lire. Il y a des choses de qualité, il y a des choses intéressantes, il y a des choses intelligentes, il y a des choses bonnes, mais au final, ces choses-là n'amènent pas le repos, n'amènent pas la paix. Et plutôt, je dirais, souvent, trop souvent, génèrent l'inquiétude, génèrent l'insécurité et l'incertitude. Alors que il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et le verbe réjouir est vraiment le mot joie. Souvent dans les verbes, dans les traductions, un verbe peut avoir plein de sens différents, mais là, le sens, il est joie, simplement joie. Et la pensée de Dieu, à l'inverse de la pensée du monde, amène en nous de la joie, amène en nous de la paix, amène en nous de la sécurité. De quelle pensée est-ce que je me nourris? De quelle pensée est-ce que nous nourrissons? Et comptons nous nourrir cet été? La pensée de Dieu a une puissance pour amener et déverser un repos profond dans nos vies. Alors, il y a ici une invitation, c'est Dieu dit simplement « Venez dans mon rempart, pénétrez dans ma forteresse, je veux être une citadelle pour toi. » Et pour venir, c'est simplement un acte de foi. C'est simplement garder clairement à l'esprit les promesses de Dieu et les saisir par la foi. Dieu réside au milieu de la cité de Dieu, et elle n'est pas ébranlée. Car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Le monde est ébranlé. Les gens autour de nous peuvent être ébranlés, mais pas nous. On peut être secoué en tant que chrétien, on peut être éprouvé, mais pas ébranlé. Dieu ne veut pas que nous soyons ébranlés dans ce sens destructif. Alors c'est vrai que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de problème, on le sait bien ça. Et même on vit des situations où l'espoir diminue, même voire disparaît. Ça peut arriver. Par exemple, quand notre compte en banque se vide, jusqu'à devenir vraiment vide, voire négatif. Quand des relations qui nous sont chères s'effritent, voire se brisent. Ou alors, quand on est éprouvé par la maladie et que la médecine n'a plus de réponse. On vit ces moments, on peut les vivre. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. C'est pas marrant, mais parfois Dieu veut que nous passions par là. Et c'est le seul moyen pour nous d'expérimenter que Dieu est le secours, que Dieu est la solution. Et dans ces moments, on n'a plus de force. On se croyait fort, puis finalement on réalise qu'on n'est pas fort. On n'a plus rien pour agir sur la situation. Plus d'argent, plus de bons médecins. Et je crois que Dieu fait exprès d'amener ces situations. Alors, je parle de ça parce que bon, je connais des personnes qui vivent ça en ce moment, et ça me touche. Et je me dis que ces situations-là nous amènent aussi à une étape d'épuisement, de fatigue profonde. Et dans ces moments, il ne nous reste plus rien dans la main pour agir sur ces situations qui nous affectent. Plus rien sauf une chose. Il nous reste une chose en tant que chrétien. Et cette chose, c'est la foi. Notre foi. Et c'est dans ces situations extrêmes qu'on réalise que notre foi est une clé puissante. Qu'en fait, c'est la seule clé que Dieu veut que nous ayons. Pas la clé de notre porte-monnaie, pas la clé de notre intelligence, pas la clé, pas toutes ces choses, ces ressources qui viennent finalement de nous ou du monde. La seule clé que Dieu met dans nos mains, c'est la foi. Toutes les promesses de Dieu sont concentrées dans cette clé, la foi. Nous avons un pouvoir immense avec notre foi. Ma foi peut ouvrir une porte sur ma réalité. Peut-être ma réalité, c'est la maladie. Mais ma foi permet à Dieu d'entrer dans ma réalité et de la transformer. On peut avoir peur de ne pas être un bon chrétien ou pas assez bon chrétien. Et quand je dis tout ça, peut-être vous vous disez, mais moi, je ne suis pas un assez grand chrétien pour avoir assez de foi. Je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas assez fort, pas assez bien. Et puis cette semaine, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça ne plaît pas à Dieu, je le sais. On peut avoir cette peur-là. Mais je voudrais vous dire, cette peur-là est un mensonge. Si tu penses que tu n'as pas assez de foi pour vivre et ouvrir tes situations actuelles, c'est un mensonge du diable. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est un cadeau offert à tous les enfants de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu es né de nouveau, ton ADN spirituel a changé. Dieu a mis en toi, avec l'esprit d'adoption, la capacité de croire ton Père. Un enfant croit son Père, naturellement. Il n'y a pas d'éducation pour dire « crois-moi ». L'enfant croit son Père. Et ton ADN spirituel a été renouvelé à ta nouvelle naissance. Et tu as une capacité innée de croire en Dieu, en ce que Dieu te dit. Nous avons la foi. Nous avons une capacité à la foi. Ce qui résiste, c'est la chair. C'est cette partie de nous-mêmes qui fait partie du monde, qui fait partie de l'ancien. Mais cette chair-là, nous dit Galates 6, ne doit pas dominer dans nos vies. Notre esprit est plus fort que cette chair. Et quand nous cultivons une vie dans l'esprit, quand nous cultivons cette présence de Dieu dans nos vies, notre esprit grandit, et notre chair n'a plus qu'une seule chose, elle se tait. Elle réagit un petit peu, mais on la fait rasseoir très vite. Nous avons une capacité à la foi. Alors, notre repos dépend de ce qui rentre en nous. Et ce qui rentre en nous, nous pouvons le saisir par la foi. Dieu nous invite à entrer dans son repos, dans ce rempart, dans cette citadelle, dans cette forteresse qu'il est. Et la première chose que je voudrais vous inviter ce matin, c'est venez à Dieu pendant cet été. Approchez-vous de lui. Entrez dans cette citadelle, ce refuge qu'il vous offre gratuitement. Parce que vous êtes à lui. Entrez, cherchez-le, entrez dans sa présence par la foi. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il y a toujours plus. Quand on croit avoir vécu des choses merveilleuses avec Dieu, on réalise, mais il y a encore tellement plus devant. Il y a tellement plus à vivre. Moi, je crois que j'ai jamais, dans mon expérience humaine, il n'y a rien de meilleur que j'ai goûté que la présence du Saint-Esprit. J'ai jamais vécu de moment meilleur que cela dans mon expérience humaine. Et d'avoir goûté cela, il n'y a qu'une seule envie, ça marque profondément envie, on a envie qu'une chose, c'est d'y regoûter. Et on se met à rechercher. Et ce qu'il y a de beau dans ce psaume, c'est qu'il y a non seulement un rempart qui nous donne sécurité, qui nous donne un repos, parce que quand on sait qu'on n'est plus en danger, on se repose, mais il y a un fleuve. Il y a un fleuve qui coule et qui réjouit la cité de Dieu. Alors ce fleuve, il est célèbre dans la Bible. Éden, paradis, le jardin en Genèse. Il y a un fleuve dans ce jardin. Ézéchiel 47, Ézéchiel parle, le prophète, il voit un fleuve qui coule du temple, du trône de Dieu, et qui se déverse. L'Apocalypse, la dernière image de l'Apocalypse, une des dernières, Apocalypse 22, c'est un fleuve, limpide comme du cristal, un fleuve de vie. On pourrait faire toute une étude sur ce fleuve, je ne vais pas le faire, mais juste dire, ce fleuve qui est là dans cette cité coule du temple. La source, c'est Dieu lui-même. Et l'eau du fleuve est appelée eau de la vie. Alors pas eau de vie, eau de la vie. Et ce fleuve s'écoule partout dans la cité. Il y a des courants, des canaux, des bras, c'est-à-dire que le fleuve se divise et il coule partout. Pour dire que ce fleuve veut visiter tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre être, et irriguer, amener cette eau de vie partout en nous. Il y a des promesses merveilleuses attachées à ce fleuve. Autour de ce fleuve croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira pas. Leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortent du sanctuaire, et leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède, et l'Apocalypse rajoute aux nations. Et quand la Bible dit « Allez dans les nations, faites des disciples », c'est ce fleuve que Dieu voit se répandre dans toutes les nations et amener de la guérison. Et ça, on l'a en nous. Ce fleuve, on sait y aller. Il y a ce mythe, ce rêve humain de la fontaine de Jouvence, la fontaine qui donne la vie éternelle, mais nous, elle existe en fait, cette fontaine. Et nous, on sait où elle est. Elle est là, dans cette cité. Elle se trouve là. Le psaume 1 dit « Le chrétien est un arbre planté près des courants d'eau. Nous sommes ces arbres. Et ce feuillage vert, c'est le nôtre. Et ses fruits, ce sont les nôtres. » Le fleuve, remarquez, n'est pas une mare, une réserve d'eau statique. Le fleuve est dynamique, il coule, il se répand. Il y a un mouvement, une direction. Ce fleuve est vivant. Et dans la Bible, l'eau, et en particulier l'eau vive, est une image pour le Saint-Esprit, pour la personne du Saint-Esprit. Et notre vrai repos se trouve en Dieu. Notre vrai repos se trouve quand on rentre dans cette citadelle et quand on boit cette eau de la vie. Et finalement, notre vrai repos, c'est Dieu. Un été, je me rappelle, j'étais profondément fatigué, une année éprouvante, il y a, je crois, 10 ans de cela. Et puis, je me disais, je vais passer du temps en famille, je vais prendre des vacances, je vais faire du sport, et ça va me reposer. Et puis à un moment, je me suis arrêté, je me suis dit non, mais en fait, Mon vrai besoin n'est pas là. Ça, ce sont des moyens, mais mon vrai besoin, c'est Dieu. Et de simplement comprendre ça et de venir à Dieu avec cette attitude, cette pensée-là, m'a profondément reposé. Et là, j'ai découvert une clé pour ma vie. Mon repos, c'est la personne de Dieu. Et quand je bois de ce fleuve, je bois Dieu lui-même. On peut investir dans des voyages, et c'est bien. On peut se projeter sur des vacances, et c'est bien. Mais gardons à l'esprit, comprenons que notre vrai repos, c'est ces choses-là avec Dieu. Avec Dieu. Ce fleuve, le fleuve du Saint-Esprit, amène aussi de la joie. Je trouve ça intéressant que ce soit la joie qui soit mentionnée là. Ça aurait pu être la paix, ça aurait pu être l'amour, ça aurait pu être tout plein de bonnes choses. Mais c'est la joie. Et ce qui montre que la joie, ce n'est pas une option. C'est un besoin fondamental de notre être, comme l'eau. Je ne sais pas quelle image vous avez du chrétien, mais moi, le chrétien pourrait être parfois un peu austère. Vous savez, il est sérieux, le chrétien. Où la joie frise le péché. Parce qu'en plus, il y a joie et joie. Il y a la joie austère, puis il y a la joie, la grande joie, quoi, avec le grand J. Mais la joie, c'est Dieu qui l'a créée. Et la joie, je crois que là, il y a des choses à explorer en tant que chrétien. On est cadré, On tronque la vérité, on est spécialiste pour ça. On religieuse tout, on met tout dans des boîtes, puis on dit, ah voilà, la joie en tant que chrétien, c'est ça, et c'est pas ça. Je crois que là, Dieu a besoin de reformater nos cœurs. Parce que la joie, c'est quelque chose de l'esprit. J'ai compris ça ces dernières années, c'est que la joie, en fait, n'est pas humaine. N'est pas une réalité humaine. La joie est spirituelle. La joie vient de l'esprit. D'ailleurs, la joie est un fruit de l'esprit. Et donc, c'est toujours plus grand, quand c'est de Dieu, c'est toujours plus grand que ce que nous, on veut y mettre. Dieu est insaisissable par nos mots. Nos mots l'approchent un peu, mais Dieu est toujours au-delà. Et la joie, je crois, est quelque chose de très important pour notre repos parce qu'elle vient exploser nos jougs. Elle vient briser des murs en nous. Elle fait une œuvre, avec la joie, simplement quelque chose de joyeux, mais elle fait une œuvre profondément reposante en nous. Il y a une puissance dans la joie. Alors, je vous invite à porter votre attention sur la joie et sur votre état de joie et sur comment vous pourriez avoir de la joie pendant cet été. Voilà. Je n'ai pas de recette. Je crois que chacun trouve sa recette, mais je crois que Dieu veut nous donner une joie particulière. Et ça fait beaucoup, beaucoup de choses et ça coûte moins cher. Ce que je trouvais intéressant dans le fleuve, c'est qu'il y a un courant. Et on est fatigué quand on agit par nos propres forces. On est fatigué parce que dans la vie, notre vie, il y a de l'adversité. Et souvent, on doit aller à contre-courant. Et surtout en tant que chrétien, où on a des valeurs, on a des principes, on est obligé d'aller à contre-courant dans plein de situations et c'est fatigant. Mais là, Dieu nous offre un fleuve avec un courant. Et une des sources de repos, c'est quand nous nous laissons entraîner par ce courant, porter par ce courant. C'est quand nous captons le courant de Dieu. Ce que Bruno Picard appelait le flow. Quand ils sont venus, ils ont tout le temps parlé du flow, du flow, du flow. Je trouvais ça rigolo. Et en même temps, je réfléchissais, parce que moi je réfléchis toujours, je me disais, c'est quoi le flow ? Puis à un moment, il y a Elia qui a osé poser la question, mais c'est quoi le flow ? Et là, il a dit, c'est le courant de l'esprit. C'est, vous savez, l'esprit qui souffle, et on ne sait pas d'où il vient ni où va, mais il souffle. Et quand il souffle, il y a une direction. Et le courant que Dieu nous offre, c'est le courant de l'esprit. Il veut faire des choses avec nous. Et il me semble que notre repos se trouve aussi dans notre capacité à capter ces flots, ce courant de l'esprit, ce vent. c'est quand nous orientons dans nos vies, dans notre quotidien, ces voiles de la bonne manière, alors c'est l'Esprit Saint qui nous pousse, et pas nos propres forces, et pas simplement nos moyens. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne une force parce que nous savons orienter nos voiles. Et je pense que là, il y a un repos profond. Parce que du coup, ce n'est plus notre force, mais c'est celle de Dieu. Capter le flot, le courant de Dieu. Si je veux être concret ce matin, pratiquement, comment boire ? Comment entrer dans cette... Donc par la foi, bien sûr, mais comment ? Quels sont les moyens ? Ben, je pense qu'on les connaît tous, mais je vais les redire quand même. Prier. À chaque fois que je prie de manière précise, je suis étonné de voir la réponse. C'est bête, mais je suis étonné de voir « Ah ben Dieu répond !» Et de réaliser à chaque fois « Ça marche !» C'est impressionnant. La louange, l'adoration, lire sa parole et la méditer. Pour moi, c'est deux choses différentes. On peut lire et méditer un petit peu, ou lire et méditer beaucoup. Et moi, je ne sais pas si ça fait quelques années que je suis chrétien, donc la parole, la Bible, je commence à la connaître. Et parfois, elle commence à m'ennuyer, je suis honnête. Parce que je commence un verset et je peux dire la suite. C'est la petite musique. Et le moyen que j'ai trouvé pour pallier à ça, c'est de prendre un passage et d'y rester longtemps. Et en faisant ça, eh bien, il y a une profondeur en fait à laquelle j'accède. Et je découvre que il y a toujours plus, il y a toujours plus, il y a toujours plus. Et c'est impressionnant. Et je crois que j'avais lu une fois que même les plus grands génies de l'histoire ont tous reconnu que la Bible est un livre hors norme, parce que il y a un côté génial qui nourrit les plus intellectuels. Saint Augustin, par exemple. Boire, c'est aussi, je crois, partager avec d'autres chrétiens. La communion. Parce que dans les échanges, on est vivifié, édifié. Et je crois que c'est important de veiller avec qui on se connecte. Parce qu'avec qui on se connecte, avec qui on partage, on peut être profondément édifié. Et ça, c'est reposant. Ça amène du repos. J'irais aussi que pour boire, c'est parler à Dieu, lui dire ce qu'on a sur notre cœur. Pas forcément les blablas religieux, alléluia, etc., les trucs. Non, les vraies choses. Dire à Dieu les vraies choses. Les choses authentiques. J'en ai marre. Ou ça, ça ne me plaît pas. Ou Seigneur, pourquoi ça ? On a le droit de dire ça. Dieu veut du vrai, de l'authentique. Tant qu'on reste dans la crainte de Dieu, le respect profond de sa personne, on peut dire ces choses à Dieu. Lui parler, mais aussi l'écouter. Pas juste parler et partir. C'est parler et ensuite l'écouter. Faire silence pour entendre sa voix. Et je crois que quand on fait toutes ces choses, puis plein d'autres peut-être, le Saint-Esprit nous visite. Son eau vient et imprègne notre terre. Et c'est là où nous vivons un ressourcement profond. Alors je terminerai par une idée que je trouve géniale. Ça pourrait faire l'objet d'un nouvel message. Je ne vais pas le faire là. C'est qu'en fait, le repos, dans notre tête, on dit ça correspond aux vacances. Et en fait, dans la pensée biblique, je suis certain que le repos, c'est un état permanent. C'est toute l'année et pas seulement pendant les vacances. Le repos est davantage un art de vivre, un art de mener sa vie. Le repos, c'est une attitude. Le repos, c'est une position spirituelle. Elle est nécessaire pour que nous soyons efficaces. Alors, la preuve, j'ai une preuve biblique. C'est qu'Adam a été créé le sixième jour, la veille du sabbat. Dieu a bossé toute la semaine et Adam se pointe comme une fleur quand Dieu a fini le travail, le sixième jour. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est que Dieu veut que nous entrions avant, dans son repos, le sabbat, le septième jour, avant de commencer notre ouvrage. C'est-à-dire que ce que nous faisons pour Dieu, notre vie finalement, émane de ce repos, de cette position en Dieu de repos, du repos de Dieu. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de puissant à découvrir, mais pas aujourd'hui. Voilà, alors je vais terminer par une invitation à un moment très reposant que je vis avec plusieurs depuis quelques semaines. Et comme plein de choses dans la vie chrétienne, ça semble un paradoxe, une contradiction, mais ça ne l'est pas. Le mardi matin, de 6h à 8h, on prie dans la petite salle en haut. Et ces derniers mois, on a vu le nombre du groupe augmenter. Et on flirte, on dépasse la dizaine. Donc on se demande même si la salle est assez grande. Alors ouais, il faut se lever. Moi, j'essaie de me lever à 5h. Oh, ça fait très mal. Surtout que moi, je me couche jamais avant 11h, minuit. Mais il y a un repos, vraiment. Il y a un repos profond. Il y a quelque chose qui se déverse dans ces moments de prière. Ils sont puissants. Ils sont vraiment puissants. Et donc, je vous invite à ce moment-là. Il y a un autre moment de prière qui va peut-être mieux vous aller. C'est le mercredi soir. Alors là, je n'ai pas l'horaire. Mais 19h-21h, voilà. Et là, pareil. Donc, c'est un moment de prière avec l'équipe d'intercession. Et voilà, je vous invite à ça parce que je crois que ce sont des moments de repos profond, des moments de ressourcement où on vient ensemble boire cette eau de la vie. Voilà. Je peux terminer en priant ? Je peux prier là ? Pardon, Jasmine. Seigneur, merci parce que ta parole ne ment pas. Ta parole est la vérité. Et ce que tu dis, Seigneur, c'est trésor de ta parole. Nos mots humains sont encore trop faibles pour décrire la richesse de ce qu'ils contiennent. Mais je te prie, Seigneur, c'est que ces mots ce matin, ta parole, puissent se réaliser dans nos vies, puissent se réaliser cet été. Et je prie que tu permettes à chacun de trouver le chemin de son repos, du vrai repos en toi. Seigneur, je prie que tu révèles, je prie que tu amènes ces lumières en chaque personne ici, pour qu'elle goûte le repos de Dieu, pour que là où il y a des zones de la vie fatiguées et qui ne sont pas reposées, je prie, Seigneur, que tu viennes amener ce repos dans ces endroits-là, profonds de nos vies, qu'on ne soupçonne peut-être pas. Père, Père, toi qui nous as créés, toi qui as fait de nous tes enfants, toi qui nous aimes et qui nous connais profondément, je te prie, Père, repose-nous, conduis-nous dans ce repos. Conduis-nous dans cette puissance. Je prie que ta joie vienne visiter notre terre. Je prie pour que ta joie visite nos êtres entiers profondément. Tu vois nos situations. Et Seigneur, je prie pour que tu amènes ce repos-là. Je te prie, Seigneur, pour que la foi soit active, pour que la foi soit fortifiée ce matin, afin que nous puissions prendre ce que tu nous donnes gratuitement en Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Et je prie que le Saint-Esprit continue cette semaine à enseigner nos cœurs et nous montrer et nous conduire dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.